Ce matin, je vais parler sur la vision que Dieu a donnée pour cette église, centre chrétien. Et dans le premier point, je demande à Béni de lancer la vision. Le premier point dit, une église fondée par la parole de Dieu et vivre la parole dans toute sa dimension pour que chacun d'entre nous connaissions cette dimension. Ça, c'est la vision que Dieu a donnée pour le centre chrétien. Et le deuxième point, conquérir la ville de Troyes et répondre aux triples missions de l'église. Et aujourd'hui, je vais parler plus sur le deuxième point et je vais le développer pour que l'église doit savoir la vision de l'église. On doit savoir où nous allons. Amen. Parce que si le pays n'a pas la vision, le pays ne peut pas aller de l'avant. Même si toi-même, étant que personne, si tu n'as pas une vision, un but dans ta vie, tu ne peux pas aller plus loin. Et l'église, c'est pareil. L'église doit avoir une vision. Et la vision de l'église, c'est le résumé de tout ce que nous pouvons faire. Ça se trouve dans ce deuxième point. Aimer Dieu. Aimer ceux qui connaissent Dieu et aimer ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Aimer Dieu et aimer ceux qui aiment Dieu et aimer ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et dans cette vision de l'Église, on avait dit que on doit s'entraider et quand on aime Dieu, on doit aussi aimer son prochain. J'espère que vous, je pense que vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Et je veux qu'on puisse faire la lecture dans Matthieu chapitre 22 à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 35 à 38. La Bible nous dit ceci à partir du verset 35. Donc, on peut commencer par le verset 34 pour la compréhension du texte. Les pharisiens, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Et le second, et voici le verset 39, bien sûr, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pour ça que dans la vision de l'Église, sur le point D de la vision, j'ai marqué les triples missions de l'Église. En premier, aimer Dieu, comme Jésus a répondu aux sadducéens et aux pharisiens qui étaient là. En premier, on doit aimer Dieu. Et en deuxième, quand tu aimes Dieu, tout naturellement, tu aimeras aussi celui qui aime Dieu. Et tout naturellement, tu aimeras aussi celui qui ne connaît pas Dieu. Parce que à travers ton amour, tu l'amèneras au Seigneur. Amen. Et dans Marc 12, là aussi, donc 12 à partir du verset 28 à 30, c'est la même chose. un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu au Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, et l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Et ma question ce matin, aimer Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Demande à ton voisin, aimer Dieu, qu'est-ce que cela veut dire au juste? Demande à ton voisin. Aimer Dieu, qu'est-ce que cela vraiment veut dire au juste? Hein, on dit aimer Dieu. Cela veut dire quoi? La réponse, ça se trouve dans la parole de Dieu. Amen. C'est dans Jean 14, à partir du verset 21 à 24. Alléluia. Parce que, avant qu'on fasse la lecture de Jean 14, 21 à 24, ce que nous devons savoir dans ces commandements que nous avons lus dans Marc, la Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Donc, la réponse, si on dit aimer Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Tu répondras simplement que tel que nous avons lu dans ce passage, Dieu, on doit aimer Dieu de tout notre cœur. C'est le commandement le plus important. Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Et malheureusement, nous vivons à une époque où le mot amour est devenu un simple sentiment. Et comme vous savez, dans les sentiments, il y a le mot « ment ». Sentiment. Mais souvent, ce mot « amour » est vulgaire. Mais selon la parole de Dieu, aimer quelqu'un est confondu. Souvent, on pense que aimer est confondu avec se sentir bien. Et lorsqu'on pense à cette personne, on se sent bien. Cependant, se sentir bien, lorsqu'on pense à quelqu'un, ne constitue pas nécessairement l'amour au terme biblique. Mais là, je vais parler en terme biblique. L'amour est intimement lié à faire et particulièrement à aimer Dieu pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. C'est ça la définition d'aimer Dieu. Cela signifie que on doit vraiment, donc l'aider est lié, donc on doit aimer Dieu et faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc c'est-à-dire de aimer ses commandements, faire sa volonté. Car Jésus dit clairement dans ces passages que j'aimerais qu'on puisse lire, dans Jean 14, le verset 15, il dit ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, c'est très clair. Si tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. Et quel est ce commandement? Quel est le commandement de Dieu? Vous voyez? Et j'aimerais qu'on lise, prenons Exode. Prenons Exode 20. Exode 20. Et vous verrez que dans Exode 20, ce commandement que Dieu a donné aux enfants d'Israël est partagé en deux. Si vous lisez bien du premier verset, donc du premier commandement, le verset de 1 à 5, et puis vous verrez que là, ça concerne Dieu. Et du 6 à 10, ça concerne les hommes. Donc, en premier, on doit aimer Dieu. Et en second, si on aime Dieu, on doit aussi aimer son prochain. Donc, on ne doit pas faire du mal à son prochain. Je vais faire la lecture à partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième génération et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Voilà. À partir du verset, donc, jusqu'au verset 11, là, ça concerne Dieu. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, le verset 12, ça concerne maintenant nous et les autres. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Voyez? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne deviendras point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Et là, c'est la partie que tu aimeras ton prochain comme hein, toi-même. Comment Jésus a résumé le commandement que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Donc, si tu aimes Dieu, donc tu dois garder ses commandements. Dis à ton voisin que si tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Et dans Jean 14, 21, 24, la Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, celui-là m'aime. Oui? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Donc, quand tu gardes les commandements de Dieu, donc tu aimes Dieu. Donc, quand on garde les commandements de Dieu, cela signifie quand on met les commandements de Dieu en pratique, on aime Dieu. Et il y a une promesse qui est là, normalement. J'aimerais qu'on lise dans Deutéronome, au chapitre 28. Il y a une promesse que Dieu nous donne. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu et nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, il y a une bénédiction qui est là. 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ouais, donc, il y a une grande richesse. Lorsque nous gardons les commandements de Dieu, lorsque nous obéissons aux préceptes, aux commandements que Dieu nous donne, il y a une promesse. La Bible dit que il te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque, donc, il y a une condition pour que nous puissions être bénis, c'est seulement lorsque on obéira à la voix de l'Éternel et tu seras béni dans toutes choses que tu feras. Donc, je vous recommande de lire cela à la maison. Et dans ce même verset de Jean 14, 21 à 24, et la suite est que, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Quand tu aimes les commandements de Dieu, tu aimes Jésus, tu aimes sa parole, Jésus et Dieu viendront faire leur demeure dans ta vie. Ce n'est pas merveilleux? Et lorsque Jésus-Christ va faire demeure dans notre vie, qu'est-ce que cela doit se passer? Voyez? Donc il faut que le monde qui nous entoure, là où tu habites, il faut que les gens sachent vraiment que tu es un enfant de Dieu. Et on le verra tout à l'heure. Mais faut pas que cela soit seulement en parole, que je suis un enfant de Dieu. Mais il faut que cela, ça se manifeste. Et Jésus dira, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Vous voyez? Quand tu ne gardes pas la parole de Dieu, cela signifie que tu ne le mets pas en pratique. Tes actions ne manifestent pas l'amour de Dieu dans ta vie. Tes actions ne montre pas que tu aimes Dieu. Donc, quand tes actions ne sont pas comparables à la parole de Dieu, donc tu n'aimes pas Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde aussi dans Deutéronome au chapitre 5, à partir du verset 8 à 10. Donc, on va lire plusieurs versets pour qu'on puisse comprendre aimer Dieu. Qu'est-ce que cela vraiment signifie quand on dit que dans la vision que Dieu a donnée au centre chrétien, la triple mission de notre vision, c'est d'aimer Dieu et aimer ceux qui aiment Dieu et d'aimer ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que dans les commandements de Dieu, on a vu que quand on aime Dieu, et on doit aussi aimer son prochain. Quand on aime Dieu, on ne fera pas du mal à son prochain. Amen. On ne fera pas du mal à son prochain. Le verset d'Éternel, chapitre 5, à partir du verset 8 et 10, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure. Donc, tu ne feras point d'image taillée, des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Et le verset 10, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations et qui m'aime et qui garde mes commandements. Vous voyez, quand tu aimes Dieu, Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, il te bénira jusqu'à 1000e génération. Et la Bible nous parle qu'on doit garder les commandements. Donc, aimer Dieu, c'est de garder ses commandements, c'est de garder la parole de Dieu. Donc, sans des choses inséparables l'une de l'autre. Quand on aime Dieu, on doit garder sa parole. Donc les deux doivent marcher ensemble. Dis à ton voisin que si tu aimes Dieu, tu dois garder sa parole. Si j'aime Dieu, je dois garder sa parole. Jésus l'a dit très clairement. Celui qui l'aime garde la parole de Dieu. Et celui qui ne garde pas la parole de Dieu ne l'aime pas. C'est clair. Ainsi, aimer Dieu, le plus grand commandement, ne signifie pas, je tire notre attention, ne signifie pas que je me sens bien en étant assis sur la chaise le dimanche matin. Or, cela, c'est que ça veut plutôt dire et que j'essaye de faire, voyez, ce qui plaît à Dieu. J'essaye de faire ce qui rend Dieu heureux. Et chaque jour, il faut que je puisse faire de sorte que je puisse rendre Dieu heureux. Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais bien aimé, Dieu, ce qu'il veut pour nous est que nous soyons de ceux qui doivent lui plaire. On ne doit pas faire des choses pour plaire les autres. Souvent, nous, chrétiens, nous perdons notre identité en voulant faire les choses qui puissent plaire aux autres. Ou tu es un enfant de Dieu, ou tu ne l'es pas, l'un ou l'autre. Ou tu aimes Dieu, ou tu n'aimes pas Dieu. Ou tu es dans le royaume de Dieu, ou tu ne l'es pas. Donc, on ne doit pas, comme on dit dans notre langage, les chiens à quatre pattes, mais ils marchent dans un seul chemin. Et donc, il ne peut pas marcher par quatre chemins malgré qu'il a quatre pattes. Et dans Jean, dans 1 Jean, il y a beaucoup de passages. C'est vrai que j'aime bien lire les épîtres des gens, comme j'avais souligné à la veillée. Et quand on lit dans les épîtres des gens, Jean nous montre comment nous devons aimer Dieu et comment aussi nous devons aimer aussi les autres. 1 Jean, chapitre 4, le verset 19 à 21. La Bible dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas ?» Et nous avons de lui ses commandements. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Et donc, si vraiment on aime Dieu, on doit aussi aimer son frère. Et moi, je dis souvent, normalement, quand tu aimes vraiment Dieu, hein, tu aimeras aussi ton frère. Si tu aimes ton frère, donc, j'ai défini l'amour, c'est l'absence du mal. Ça, c'est ma définition. L'amour, c'est l'absence du péché. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas les critiquer. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton frère, tu ne peux pas les haïr. Tu ne peux pas les calomnier. Dis à ton voisin que si tu m'aimes, tu ne peux pas me calomnier. Si tu m'aimes mon frère, tu ne peux pas me calomnier. Si tu m'aimes, tu ne peux pas dire de mal de moi. Amen. Si tu aimes vraiment, pourquoi tu critiques ton frère? Hein? Si tu aimes vraiment, réellement, si tu aimes Dieu, pourquoi tu critiques ton frère? Pourquoi tu critiques ta sœur? Pourquoi tu fais toujours les songo-songo? Les congosa, pourquoi? Donc cela veut dire que tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois respecter ton frère. Si tu aimes Dieu, tu dois respecter ta sœur. Si tu aimes ma Dieu, tu ne peux pas faire du mal ni à tes enfants, ni à ton voisin, ni à ton collègue de travail. Tu ne peux pas même pas les critiquer. Mais malheureusement, on dit que nous sommes des chrétiens, nous aimons Dieu, mais souvent nous faisons les choses qui ne fait pas voir que nous aimions Dieu. Parce que quand nous passons notre temps à se critiquer, en disant du mal des uns et des autres, où est vraiment l'amour de Dieu? Et quand nous disons que nous aimons Dieu et nous passons notre temps à critiquer les autres assemblées, est-ce que nous faisons vraiment partie du corps de Christ? Parce que nous sommes une église. Nous sommes un corps. Nous sommes les membres des uns et des autres. Si l'autre souffre, si un doigt qui est blessé, c'est tout le corps qui souffre. Est-ce que tu souffres avec l'autre quand l'autre est dans les difficultés? Est-ce que tu dis, ah, c'est bien, je le savais? Ou tu es là en train de compatir? C'est ça, l'amour. Dans l'amour, il y a la compassion. Amen. Dans l'amour, il y a la compassion. Parce que Dieu, dans sa compassion, dans sa miséricorde, dans son amour, il a donné Jésus. Oui, il a donné, Jésus a pris notre place à la croix. Et la vision de l'Église, que nous devions aimer Dieu et aimer aussi ceux qui aiment Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, tu l'aimes aussi. Si quelqu'un t'aime et puis toi, tu l'aimes, les païens aussi font la même chose, nous dit la parole de Dieu. Mais surtout, ce qui est très important, c'est aimer aussi ceux qui nous font du mal. Oh, nous sommes là. On doit aussi aimer ceux qui nous critiquent. On doit aussi aimer ceux qui nous calomnient. On doit les aimer aussi. Quand tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi ceux qui te calomnient. Nous sommes là. Dis à ton voisin, regarde, en arrière, si tu aimes Dieu, aime celui qui te fait du mal. Tu dois aussi aimer ceux qui t'en font du mal. Tu dois prier pour eux. Moi, j'ai un témoignage là-dessus, parce que ce que nous prêchons, on doit le mettre aussi en pratique. Ce n'est pas facile, ça fait mal, mais on doit mettre nos genoux à terre. Implorer la grâce de Dieu et sa miséricorde. Tu dis, Seigneur, regarde, telle personne m'a calomnié, il a dit des choses que je n'ai pas faites, mais tu connais mon cœur. Je te présente cette personne. Seigneur, mets encore l'amour dans mon cœur pour que je l'aime, que je ne puisse pas les haïr. Parce que le but du diable, c'est quoi? Pour que tu puisses éloigner de Dieu. Quand quelqu'un te calomnie, ça fait mal. Et surtout si la personne que tu aimes encore, il te calomnie, ça fait encore très mal. La personne que tu aimes, il dit du mal de toi, ça fait mal. Ou une personne que tu as même aider, tu as rendu même service, il te parle mal de toi, dis, mais tu peux dire les choses que tu peux regretter après, mais il faut que tu dois faire, c'est de mettre tes genoux à terre et de demander l'aide de Dieu. Seigneur, pense les blessures de ces coups que je viens de recevoir. Mets l'amour dans mon cœur, que je l'aime encore. Amen. Parce que quand tu pries pour tes ennemis, Dieu te donnera la force d'aimer la personne. Parce que quand tu pries comme ça, tu lui accordes le pardon à cette personne. Quand tu le verras, ton cœur ne va pas faire boum, 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 boum. Ton cœur, il y aura la compassion et l'amour envers la personne. Il y avait une personne qui m'a calomnié. Je l'ai su. J'ai rien dit à la personne. Je savais qu'il disait des choses fausses contre moi et contre l'église de Jésus. Et j'ai prié pour la personne. J'ai intercédé. Et un jour, son épouse m'appelle, pasteur, mon mari veut te voir. Je dis, ok. Je suis allé. Je suis rendu chez eux. Il a dit, pasteur, c'est vrai que j'étais beaucoup calomnié et tu le savais que c'était moi, mais tu n'es jamais venu me voir pour me le demander. Je savais que tu savais que c'était moi, mais je te demande pardon. Je m'en suis pardon à ton épouse. Je lui ai dit ceci, sache que dès que je l'avais su, je t'avais déjà pardonné. Amen. J'ai dit, je t'avais déjà pardonné. Donc, merci de ce que tu m'as demandé pardon. Et sache que je te pardonne encore. Et j'ai pris le temps de prier avec la personne. Amen. Et cette même personne, je savais qu'il me faisait du mal. J'arrive avec ma voiture, je le vois dans l'arrêt de bus, je dis, viens, où vas-tu? Je le prends dans la voiture. Je l'accompagne là où il allait. Vous voyez? Là où elle allait. Donc c'est ça, normalement, l'amour que Dieu nous demande. De ne pas rendre le mal au mal, mais toujours de rendre le mal au bien. C'est à cela que nous sommes appelés. Lorsque nous aimons Dieu, on doit aussi aimer notre prochain. Même si la personne nous fait du mal, on doit continuer à l'aimer. C'est à cela que nous sommes appelés. Et dans 1 Jean chapitre 3, les versets 22 à 23, la Bible nous dit ceci. Mais avant qu'on lise ça, j'aimerais qu'on lise 1 Jean 5, 2 à 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Donc les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et dans 1 Jean 3, 22 à 23, nous dit ceci, quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Donc, si je commence à lire en bas et je remonte, vous verrez que là aussi, il y a une promesse. Il dit, donc je vais commencer en bas. Donc, si nous nous aimions les uns les autres et nous gardons les commandements que Dieu nous a donnés, et lorsque nous gardons ces commandements et quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous allons les recevoir. Parce que en gardant ces commandements, en nous aimant les uns et les autres, Dieu se plaît de nous. Dieu sourit lorsque nous nous aimions vraiment, même lorsque nous aimions aussi ceux qui nous font du mal, et lorsque nous prions pour eux. Et quand maintenant on demande quelque chose à Dieu, Dieu ne nous les donnera. Amen. Dieu ne nous les donnera. Mais malheureusement, il existe diverses idées fausses dans le christianisme d'aujourd'hui. Une très sérieuse est l'idée fausse que Dieu ne se soucie pas de si nous appliquons ou ses commandements, sa volonté, sont des faux. Donc, ce que je veux dire par là, les faux raisonnements, est que même si nous n'appliquons pas les commandements de Dieu, même si nous ne gardons pas les commandements de Dieu, on peut tout demander et Dieu nous les donnera. C'est là que je suis en train de dire que ce sont des diverses idées fausses. Sachant que quand on garde pas les commandements de Dieu, quand on fait pas la volonté de Dieu, nous sommes plus dans les plans de Dieu. Nous sommes hors du plan de Dieu. Nous sommes hors du projet de Dieu. Amen. Et d'après ces faux raisonnements, tout ce qui importe à Dieu est ce moment où nous avons commencé dans la foi. Foi égale aussi aimer Dieu. Donc, on a été séparés de questions pratiques, voire même, et sont considérées comme des notions théoriques des états d'esprit qui peuvent exister séparément de notre style de vie. Cependant, ce que je vais dire ce matin, c'est que nous devions savoir que aimer Dieu ne doit pas être séparé de ce que nous devions vivre dans la foi. Quand on aime Dieu, on doit aussi vivre dans la foi. Et quand on vit dans la foi, on doit faire la volonté de Dieu. Et quand on fait la volonté de Dieu, Dieu se soucie de nous. Et tout ce que nous allons demander, Dieu ne nous les accordera parce que nous faisons sa volonté. Amen. Donc, on fait la volonté de Dieu. Donc, on ne doit pas être des chrétiens théoriques. Dis à ton voisin que ne sois pas un chrétien théorique. Mais tu dois être un chrétien de foi. Un chrétien qui vit la parole de Dieu. Vous voyez? Parce que la foi signifie quoi? La foi signifie être fidèle. Parce que quand tu dis j'ai la foi, donc tu as confiance à la personne. Quand tu as confiance à la personne, tu dois aussi être fidèle à la personne. Vous voyez? Donc, on doit être quelque chose si vous avez la foi. Et si c'est que vous devez être, c'est fidèle, et la personne fidèle cherche toujours à plaire à la personne à qui elle est fidèle. C'est-à-dire, elle cherche à faire sa volonté et à marcher selon les commandements. Donc là, je parle de Dieu. Vraiment, que Dieu vraiment nous aide vraiment à demeurer fidèle. Et autre chose qui devient aussi évidente, c'est à partir de ce qui est dit, que je viens de dire plus haut, et que la faveur et l'amour de Dieu ne sont pas vraiment inconditionnels, ainsi que certains veulent nous faire croire. Nous voyons également cela dans les passages que je peux qu'on peut lire dans Jean 14, les versets 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, on voit bien clair que quand on aime Dieu, on a aussi sa faveur, on a aussi son amour et tout ce que nous allons demander et Dieu nous le donnera. Et dans 1 Jean 3, verset 22, il dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, tous ces commandements, nous voyons que Dieu veut que nous puissions être cette génération qui propage la bonne nouvelle. Et pour propager cette bonne nouvelle, on doit vivre l'évangile. Amen. On doit être ceux qui vivent l'évangile. On doit être des chrétiens et non des chrétiens. Donc, soyons vraiment des chrétiens fervents, les chrétiens qui aiment Dieu et qui, par notre comportement, notre attitude et notre conduite, puissent vraiment glorifier Dieu. Et en glorifiant Dieu, vous savez, la vraie évangélisation, pour que nous puissions tirer de nos chrétiens, c'est que nos chrétiens puissent voir dans notre assemblée l'amour véritable et sincère. Oh. La vraie évangélisation, lorsque les non-chrétiens qui ne connaissent pas Dieu voient au centre chrétien l'amour sincère et véritable, on ne se critique pas, on s'aime, on s'entraide. Si quelqu'un est dans des difficultés, on vient au secours de la personne. Et je pense qu'on va attirer un grand nombre à Jésus. C'est ça la vraie évangélisation. Mais le problème est que nous-mêmes chrétiens, nous faisons fuir les gens dans l'église. Une nouvelle personne vient, il nous observe. En sortant de l'église même, on commence à se disputer. Et la nouvelle personne qui est arrivée dans l'église, et s'il voit ça, et vous pensez qu'elle va encore revenir dimanche prochain? Je ne pense pas. Vous voyez? Mais s'il vient la première fois, il voit vraiment l'amour. Et il voit que quand vous sortez, vous partagez, vous souriez. Il va dire, et vous l'aviez accueilli aussi chaleureusement. Je pense que la personne reviendra. C'est que je veux dire que nous devions être une famille. Amen. Dans la famille, il ne manque pas de problèmes. Mais on doit savoir résoudre nos problèmes. Amen. On doit savoir se parler. C'est ça que je veux dire. On doit savoir se parler. Si j'étais blessé, viens me voir avec respect et me parler, on se parle, je m'excuse, je n'ai pas dit cela pour te blesser. Parce que l'ennemi, parfois, ils peuvent tronquer la parole de Dieu, transformer mes paroles. C'est comme lorsque les enfants d'Israël ont commencé par les enfants d'Israël, lorsque ceux qui habitaient dans les contrées ont commencé à faire le tour de Babel, Dieu avait changé leur langage. Lorsque l'autre disait A, l'autre entendait B. Les ennemis aussi peuvent traduire quand on parle, ils peuvent aussi faire entendre autre chose. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. La personne n'a rien dit de mal de toi, mais tu as mal interprété. Ou, je pense que ça vous arrive déjà, tu arrives à un endroit parfois, la personne parlait de toi parfois, mais tu n'as pas entendu le commencement, mais tu as entendu la fin. Et tu te fais, comme on dit dans notre langage, des boules. Donc, tu commences à imaginer des choses. Or, tu peux demander tout simplement. Au lieu que tu puisses à commencer à imaginer des choses. Amen. Donc, en conclusion de ce message, ce que je vais dire ce matin dans cette vision de l'Église centrée chrétienne, j'aimerais vraiment que les gens du dehors, quand ils nous voient, qu'ils voient moins que nous sommes de ceux qui aiment Dieu, que nous sommes aussi de ceux qui aiment notre prochain comme nous-mêmes, afin d'attirer un grand nombre à Jésus. Aimer Dieu de tout notre cœur est le commandement le plus important. Mais aimer Dieu n'est pas un état d'esprit dans lequel nous nous sentons bien à l'égard de Dieu. Aimer Dieu est l'équivalent de faire ce que Dieu veut. Aimer Dieu, c'est en même temps lui être désobéissant n'est pas possible. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas être désobéissant. Avoir la foi, mais ne pas être fidèle à Dieu n'est pas possible. Amen. La foi n'est pas un état d'esprit. Je répète encore, la foi n'est pas un état d'esprit. La foi en Dieu et en sa parole équivaut à être fidèle à Dieu et à sa parole. Ne croyons pas à l'idée fausse qui tente de séparer l'un de l'autre. De plus, l'amour et la faveur de Dieu reviennent à ceux qui l'aiment, c'est-à-dire à ceux qui font ce qui lui est agréable. Sa volonté. Amen. Par ailleurs, nous avons vu qu'il est préférable de faire la volonté de Dieu, même si nous n'en ressentons pas l'envie, que de désobéir à Dieu. Ceci ne fait pas de nous des robots sans sentiments. Nous pouvons, devons toujours parler au Seigneur et lui demander un autre moyen si nous pensons que sa volonté est trop difficile à accomplir, et nous devons prendre sa réponse tel quel. S'il y a un autre moyen, il va le fournir. Il est le maître et le père le plus merveilleux de tous. Bienveillant et bon envers tous ses enfants. Et s'il n'existe pas d'autres moyens, il nous encouragera à faire ce qui semble trop difficile pour nous, exactement comme il a fait pour Jésus, vous savez, les jours de sa mort. Quand il était dans le jardin de Gethsemane, il a dit, Père, dans ces souffrances-là, il a dit, Père, si est dans ta volonté, éloigne-moi de cette coupe. Mais la volonté de Dieu est que nous devons aussi souffrir pour les autres. Vous voyez? Parfois, on ne comprend pas quand on passe des moments difficiles. Je m'excuse. Parfois, on se demande, mais pourquoi, Seigneur, c'est tant difficile? Mais pourquoi, parfois, dans les épreuves, Dieu aussi nous enseigne. Amen. Dans les épreuves, Dieu nous enseigne aussi. Vraiment, demeurons fermes dans notre foi. Demeurons fermes en aimant Dieu et en aimant aussi sa parole et surtout en mettant en pratique la parole de Dieu. Amen. Que Dieu puisse bénir sa parole. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier pour la parole que Dieu nous a donnée ce matin. Si quelqu'un ne garde pas la parole de Dieu dans son cœur, il n'arrive pas à garder la parole de Dieu, j'aimerais prier pour la personne, que Dieu l'aide vraiment à savoir garder la parole de Dieu, pour que nous soyons cette assemblée qui vivent la parole de Dieu. Prions. Fermons les yeux. Et si quelqu'un a besoin de la prière, qu'il lève seulement la main, je vais prier pour elle. Amen. Amen. Vous pouvez baisser la main. Amen. J'ai vu. Amen. 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 Je vais prier pour vous. Baissez les bras. Je vais prier pour vous. Dieu Père, merci pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Tu nous as dit, nous devons t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Seigneur, tu as vu les mains qui sont levées, Seigneur. Je te présente tes enfants qui ont levé leurs mains ce matin, Seigneur, parce que ils ont le désir, Seigneur, de t'aimer de tout leur cœur. Ils ont le désir, Seigneur, de garder ta parole, Seigneur, dans leur cœur, et de les mettre en pratique, d'obéir, Seigneur, d'avoir la foi en toi et de marcher dans la fidélité de ta parole. Mais, Seigneur, ils n'ont pas la force. Je demande ce matin, Seigneur, de le pardonner, Seigneur, de le sanctifier, cette parole qu'ils ont reçue, que cette parole les sanctifie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette parole puisse les rendre purs, afin qu'ils puissent vraiment avoir cette force de t'aimer et de garder ta parole dans leur cœur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ne laisse pas que l'ennemi vienne voler cette parole que toi, tu nous as donnée ce matin. Que cette parole puisse trouver l'écho dans notre vie, notre Dieu, et que nous puissions les mettre en pratique par l'action du Saint-Esprit. Déverse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ton esprit sur ceux et celles qui ont levé leurs mains, notre Dieu. Car sans ton esprit, il ne peut pas plaire à toi, notre Dieu. Sans ton esprit, il ne peut pas pratiquer ta parole parce qu'ils sont sans force. Donne-le ce matin, ton esprit, notre Dieu, afin que l'esprit de Dieu puisse, Seigneur, mon Dieu, moi, les aider vraiment à faire ta volonté. Je les bénis, Seigneur, en ton nom, Jésus. Je bénis aussi ceux qui n'ont pas pu lever les mains, Seigneur. Tu connais la marche de tout et chacun, Seigneur, notre Dieu. Nous te demandons que nous soyons une église sainte, sans tache ni ride. Une église qui te glorifie, Seigneur, dans nos actions de chaque jour. Une église, Seigneur, qui te loue, Seigneur, par notre comportement. Une église, Seigneur, qui t'adore, Seigneur, par notre conduite. Ô Père, viens, Seigneur, que nous puissions vraiment épouser ton caractère, Seigneur notre Dieu. Nous voulons être semblables au Fils de Dieu. Seigneur, pour l'être, nous avons besoin de ton esprit. Et nous avons aussi besoin que tu puisses augmenter notre foi. En augmentant notre foi, Seigneur, on doit toujours avoir confiance en toi. Car tu nous as gardé de bonnes choses. Tu n'as ta parole que lorsque toi tu demeures à nous, on peut tout demander et toi tu nous les donneras. Tu connais ceux qui travaillent des moments difficiles, Seigneur. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce, Seigneur, d'accorder ta grâce à ceux qui passent des moments difficiles, de relever ceux qui sont abattus ce matin, notre Dieu. Donne la force à ceux qui n'arrivent pas à accorder aussi le pardon à ceux qui leur blessent. Donne-leur la force de pardonner et d'aimer même ceux qui les calomnient. Sans ta force, nous ne pouvons pas aimer, Seigneur notre Dieu. On a besoin de ton aide. Car le Saint-Esprit est là pour nous aider, notre Dieu. Donne encore à ton Église ton esprit, afin que nous puissions vivre la parole. Afin que, en vivant la parole, Seigneur, tu ajouteras dans l'Église ceux qui sont sauvés. Père, ne laisse pas que nous soyons de ceux qui ne vit pas ta parole, Seigneur, mais permets-moi que nous soyons de praticiens. Chaque jour, Seigneur, aide-nous à te glorifier, notre Dieu. Chaque jour, Seigneur, aide-nous à te louer par notre comportement. Père, merci de bénir encore cette parole que toi, tu nous as donnée ce matin. Je prie aussi pour ceux qui sont malades, Seigneur, à travers la puissance de ta parole, que tu leur apportes la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, je te prie, comme tu nous as parlé ce matin, qui leur donne du travail. Si nous demandons quelque chose qui est dans ta volonté, tu es celui qui nous écoute. Parce que nous gardons tes commandements. Et nous te prions que tu puisses aussi aider ceux qui n'ont pas de travail à trouver du travail, Seigneur notre Dieu, et qu'ils puissent en témoigner aujourd'hui, Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne. Telle que notre prière en ton nom Jésus. L'Église dit Amen. 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 Acclamons notre Dieu. Alléluia.